VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Et bienvenue à l'édition du lundi 21 septembre 2015. L'actualité est encore dominée ce soir par la crise au Burkina Faso.
La tension s'accroît à Ouagadougou alors que les unités de l'armée demandent aux putschistes de déposer les armes.
Nous avons vu la colonne se diriger vers la capitale. Des chars et des véhicules conduits par les militaires.
Et le chef des putschistes, le général de brigade Gilbert Diendéré, partira-t-il ou ne partira-t-il pas? On l'écoutera un peu plus tard au micro d'Idriss Fall.
Le projet d'accord négocié par la CEDEAO à Ouagadougou, est-ce une prime à l'impunité?
Nous pensons que la CEDEAO aurait dû prendre les mêmes positions que l'Union africaine, être ferme et vraiment ne pas donner une prime aux couches militaires.
On écoutera l'analyse du chercheur Ki Doulaye Corentin.
Nigeria, 85 morts et plusieurs dizaines de blessés, bilan des attentats d'hier à Maïdougouri.
En Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras célèbre sa victoire aux élections anticipées de dimanche, mais déjà l'attention se porte sur les nombreux défis qui attendent le prochain gouvernement.
Et nous parlerons aussi de la crise migratoire en Europe avec la Hongrie qui prend de nouvelles mesures pour sécuriser ses frontières. La tension s'accroît à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Des unités de l'armée demandent aux putschistes de déposer les armes. Aux dernières nouvelles, on apprend que le chef des putschistes, le général de brigade Gilbert Diendéré, a eu une rencontre avec l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. À la suite de cette rencontre, il a parlé à VOA Afrique. On l'écoute au micro d'Idriss Fall.
Nous avons discuté de la situation présente et nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix éviter au Burkina Faso de tomber dans une guerre civile. Et pour cela, nous avons réitéré nos engagements à respecter scrupuleusement les décisions qui seront prises par la CEDEAO.
Il y a une partie de l'armée qui est aux portes de Ouagadougou ou bien?
Oui, il y a quelques unités de l'intérieur du pays qui ont commencé à faire des mouvements sur Ouagadougou. Et donc nous pensons qu'il faut éviter cette confrontation possible. Et nous avons entamé quelques discussions avec les responsables de ces unités-là pour éviter tout bain de sang inutile.
Et donc, vous êtes tombé d'accord pour faire quoi? Vous abdiquez ou bien?
Nous sommes en train de discuter. Nous pensons pouvoir trouver une solution heureuse.
La solution heureuse serait de remettre entièrement le pouvoir à Michel Kafando?
Mais c'est ce que nous avions déjà. Cela était déjà prévu dans l'accord que nous avons signé. Il devait être demain au sommet de la CEDEAO. Donc nous avions, depuis les discussions passées, exprimé notre volonté de respecter ces engagements-là.
Et est-ce que vous allez vous rendre, comme le demandent ceux qui font le siège de Ouagadougou?
Nous sommes en train de parler avec eux. Nous allons voir quelle est la solution, quelle est la meilleure des solutions pour éviter le bain de sang.
Donc vous allez vous rendre armée et bagages sans résistance?
Nous allons discuter d'abord, nous allons discuter.
Le général de brigade Gilbert Diendéré.
Et pour faire un point sur les derniers développements, nous écoutons notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Ouagadougou, ville morte, c'est le constat cet après-midi dans la capitale burkinabé, depuis que la nouvelle a circulé sur l'arrivée des troupes des autres villes du pays pour désarmer le RSP. La circulation est fluide, les échoppes sont fermées, les habitants de Ouagadougou sont calfeutrés chez eux, l'oreille tendue vers le palais présidentiel où se trouve le camp Nabakoum qui abrite le RSP. Suivons ce vox pop.
Quand j'ai entendu que les autres troupes des autres provinces allaient venir à Ouagadougou pour nous défendre, j'étais tellement fier pour la disparition du RSP.
En tout cas, ici, c'est la ville morte pour le moment. Mais depuis qu'on a appris que nos militaires des autres provinces viennent pour nous défendre, pour sasser RSP, nous, on est fiers. Oui, on est fiers. On est avec eux. Même si nous aussi, on va prendre des trucs pour les accompagner, on est prêts.
Je suis sorti aujourd'hui. J'ai fait un peu le tour. Ma patronne m'avait appelé de venir prendre quelque chose. En cours de route, j'ai vu des gens qui ont barré la route. Sincèrement, les Burkinabés, ceux de Ouagadougou, surtout les Ouagadougous, sont vraiment mobilisés. Ils sont sortis. Moi, je suis partant. Je suis avec eux. Et j'ai appris que les autres armées des autres provinces doivent venir. L'armée des autres provinces doit venir. Je suis très content. Je suis très content. Je suis fier.
Depuis la survenue du coup d'État le jeudi dernier, on a senti qu'un ressort semblait cassé dans la cohésion de l'armée burkinabé. Alors que les manifestants étaient réprimés à Ouagadougou, dans les autres villes du pays, les manifestations se faisaient sous le regard indifférent des forces de sécurité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est ce projet d'accord sorti hier par le médiateur Macky Sall et qui a été tout de suite désapprouvé par les ESC et les partis politiques de l'ex-opposition dans sa forme et dans son fond. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Un peu plus tôt dans la journée, les soldats de la garnison de Bobo-Dioulasso se sont mis en branle. C'était cet après-midi en direction de Ouagadougou. La sortie de la ville a été saluée par une population en liesse. On écoute Bourema Maïga, un enseignant qui a été témoin.
Ah, vraiment, c'est incroyable. Ça fait 20 ans que je réside à Bobo, je n'ai jamais vu du monde comme ça. Toute la population était sortie de la ville. On les a pris à 2 km de la ville, ils sont en partant sur Ouagadougou. Ils sont sortis avec des chars, des véhicules.
Combien de véhicules, combien de chars?
Bon, je vis au moins 7 véhicules comme ça, dont 3 chars blindés.
Et les populations étaient à quel niveau? À la sortie de la ville ou juste devant le camp militaire?
Non, c'est depuis qu'on a fait le squad, là, depuis le camp militaire. La foule, en tout cas, était vraiment... Au moins, c'est là, on est là, ça valait près de 5 km. À la sortie de la ville, on ne pouvait même pas voir la traversée. Vraiment, moi, j'étais dépassé. Depuis 20 ans que je suis là, je n'ai jamais vu comme ça dans la ville de Bobo.
Voilà, c'était Bourema Maïga, un enseignant de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Alors, le projet d'accord de sortie de crise annoncé par le président sénégalais Macky Sall et son homologue béninois Yayi Boni est, selon beaucoup de Burkinabés, nul et non avenu. C'est d'ailleurs l'opinion d'un des leaders de la société civile, Marcel Tankwano. Il est président du mouvement du 21 avril. Il considère que le peuple burkinabé n'est pas du tout concerné par la proposition de la CEDEAO. On l'écoute.
Nous ne sommes pas satisfaits de ces conclusions. C'est même pour la population burkinabé une honte pour l'Afrique que le Burkina a voulu connaître sa démocratie, que des terroristes s'emparent du pouvoir et que de telles décisions soient données à une population insurgée pour libérer tous ceux qui sont contre l'Afrique, tous ceux qui sont dans l'ancien régime de peuple comparé. Nous ne pouvons pas accepter cette feuille de route qui a été donnée au gouvernement hier. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Et à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, nous sommes déjà en lien sur toute la population est découragée, désolée, mais la population est partout, est manifeste partout. Dans la ville de Ouagadougou, dans les 6 mètres, dans les grandes voies, tout est barricadé, il n'y a pas de passage. Et cette décision que Macky Sall a proposé et Yayi Boni, nous n'en sommes pas concernés. Le peuple du Burkina Faso n'est pas concerné et nous allons tout simplement libérer notre pays comme ce que nous avons fait les 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso pour chasser Blaise Compaoré. Ces terroristes également, nous allons les chasser et ils vont aller très loin de notre pays.
Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril au Burkina Faso.
Les propositions de la médiation de la CEDEAO menées par les présidents Macky Sall et béninois Yayi Boni donneraient une prime à l'impunité. Le problème majeur est que le projet d'accord annoncé n'a pas été discuté par tous les acteurs concernés par la crise actuelle. Pour l'analyse des conclusions de la médiation, Eric Manirakiza, adjoint à Ouagadougou, qui est Doulaye Corentin, responsable du Centre de recherche géopolitique et d'études stratégiques.
Compte tenu des réactions, évidemment, il y a à boire et à manger dedans. Hein. Il y a des propositions, évidemment, qui sont tout à fait acceptables. Par exemple, la libération sans condition des personnalités qui sont détenues, la restauration des autorités de la transition avec Kapando comme président. Ça, ce sont des propositions qui sont acceptables par tout le monde. Quoique, jusqu'à présent, on ne sait pas trop ce que devient le Premier ministre et quel sera finalement le sort qui lui sera réservé, surtout qu'on dit qu'il faudrait un retrait des militaires du gouvernement. C'est que le Premier ministre Zida est donc militaire, mais on sait aussi qu'il a formé un gouvernement et que ce gouvernement fait partie de la transition et que si devait partir. Ça pose un problème, évidemment, en ce qui concerne le gouvernement.
Dans ce projet, on offre une amnistie aux putschistes et on demande aussi l'inclusion des leaders du CDP exclus du processus électoral.
S'il faut nécessairement une immunité pour que la situation se résolve et que la situation revienne à la normale, évidemment, c'est quelque chose qui a discuté. Dans tout ce document-là, le problème est que ça n'a pas été discuté avec les acteurs. Ça, ce sont des propositions de la CEDEAO et je me demande même d'ailleurs si c'est adopté demain à Abuja, on se demande comment ça va être mis en œuvre. Est-ce que la CEDEAO reviendra discuter avec les uns et les autres, ou est-ce que ce sera quelque chose qui sera imposé au Burkina Faso comme un pays sous-titrage. Le problème de l'inclusion, ça ne me fait ni chaud ni froid qu'on puisse réadmettre les gens du CDP pour la course à la présidence. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y aura un problème juridique. La Cour constitutionnelle, comme tout le monde le sait, ses décisions sont non susceptibles de recours. Par ailleurs, la plupart des candidats au présidentiel qui avaient été écartés ont déclaré qu'ils acceptaient les décisions du Conseil constitutionnel.
La médiation de la CEDEAO ne fait que diviser davantage le pays.
Absolument, absolument. La médiation de la CEDEAO a posé les jalons d'une situation qui est un peu difficile. Nous pensons que la CEDEAO aurait dû prendre les mêmes positions que l'Union africaine, être ferme et vraiment ne pas donner une prime aux couches militaires.
C'était Kidoulay Corentin, joint à Ouagadougou par Eric Manerakiza.
Revenons sur ce projet d'accord de sortie de crise. La présidence de la transition, selon cet accord, va rester dans la main de Michel Kafando. Les ministres militaires doivent quitter le gouvernement, donc exit Isaac Zida. On retient aussi l'amnistie pour les auteurs du coup d'État et la participation aux élections présidentielles et législatives des candidats qui avaient été frappés par le code électoral. Demain mardi, en sommet extraordinaire, les chefs d'État de la CEDEAO vont décider d'en faire un accord définitif ou non. Zoumana Ouedogo.
Juste avant de quitter Ouagadougou le samedi dernier, le président béninois Thomas Yayi Boni affirmait ceci.
Tous les acteurs de la vie politique du Burkina vont se réunir, et ceci en présence du groupe international de contact, pour lâcher la bonne nouvelle au monde entier.
Il a fallu de peu pour que cette bonne nouvelle annoncée ne le soit pas, car des pro-CND ont fait irruption le matin dans le hall de l'hôtel où se tient la médiation pour exprimer leur soutien au nouvel homme fort, le général Gilbert Diendéré. Après cet incident, les grandes lignes du projet d'accord de sortie de crise ont été données dans la soirée par le président de la CEDEAO, Cadré Désiré Ouédraogo.
La libération sans condition de toutes les personnalités détenues suite aux événements du 17 septembre 2015. 2. La restauration des institutions de la transition et du président Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. 3. Le retrait des militaires du gouvernement. 4. La poursuite du processus électoral et l'organisation des élections présidentielles et législatives au plus tard le 22 novembre 2015. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale seront autorisées à participer aux prochaines élections. L'acceptation du pardon et l'adoption d'une loi d'amnistie au plus tard le 30 septembre 2015 sur les événements consécutifs au coup d'État du 17 septembre 2015.
Le médiateur en chef, le président sénégalais Macky Sall, donne ici la suite du processus assuré par le projet d'accord.
C'est ce schéma qui sera présenté le mardi à Abuja pour que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO puisse prendre les décisions qu'impose la situation, à la suite de quoi mission sera envoyée à Ouagadougou pour mise en œuvre.
Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Tulinabo Mushengi.
On ne peut pas continuer dans cette impasse. Alors, nous sommes ravis de voir qu'il y a un schéma, que les gens vont commencer à discuter. Ce qu'on veut, c'est une solution gagnante.
Merci Zoumana Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie dans l'actualité aujourd'hui.
Au Nigeria, le bilan s'alourdit après les attentats d'hier à Maïdougouri. D'après la police, plus de 80 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines d'autres blessées, alors que les témoins au départ parlaient seulement de 21 morts. On fait le point avec Lucille Hamon.
Les secouristes et les militaires affirment que 3 explosions ont eu lieu dans les quartiers Gomari et Alijari de Maïdougouri, mais des témoins disent qu'il y en a eu 4, dont une dans une mosquée et une autre bombe visait des civils qui regardaient un match de football. Un témoin affirme que la première bombe a fait au moins 6 victimes. Quelques minutes après, une deuxième explosion aurait fait 14 blessés, dont des enfants. Un autre engin aurait explosé dans une mosquée située dans un quartier populaire de Bintashugar. Depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, une nouvelle vague de violence s'est étendue dans le nord-est du Nigeria. Le groupe Boko Haram a changé sa stratégie et a recours à des techniques de guérilla comme des bombardements ou des attentats suicides qui touchent maintenant le nord du Cameroun et le Tchad.
Heures préélectoraux en Guinée à l'approche de la présidentielle du 11 octobre. Partisans du président sortant Alpha Condé et Sélou Dalène Diallo, le chef de l'opposition, se sont affrontés à coups de pierre et de bâton hier à Koundara, dans le nord du pays. Au moins 17 personnes ont été blessées d'après l'AFP. Et des biens publics et privés ont été saccagés, dont des boutiques appartenant à des commerçants peuls proches de l'opposition. Par ailleurs, à Kankan, dans l'est du pays, favorable au président Condé, les partisans du pouvoir ont empêché samedi la tenue d'un meeting de l'ex-premier ministre Sidya Touré, chef de l'Union des forces républicaines, par des jets de pierre sur une place, selon la cellule de communication du parti.
Une élection présidentielle se profile également en République démocratique du Congo. À l'approche du scrutin de 2016, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a inauguré son compte officiel Twitter destiné à échanger sur l'avenir de son pays. Ce compte officiel est désormais ouvert. Suivez-moi pour échanger sur mon actu et l'avenir de la RDC, indique le premier message de Moïse Katumbi qui promet des nouvelles bientôt. Il a refusé de confirmer que ce message pourrait être la confirmation de sa candidature, pressentie depuis plusieurs mois à la prochaine présidentielle.
Forte explosion en Somalie, près de la présidence et des bureaux du premier ministre à Mogadiscio. La détonation serait vraisemblablement venue d'un véhicule piégé. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat et aucun tir ou signe de combat n'était signalé. À noter toutefois que les islamistes d'Al-Shabaab recourent régulièrement aux attentats à la voiture piégée pour s'introduire dans des bâtiments visés par des assaillants à pied.
Concernant Al-Shabaab toujours, le Kenya commémore aujourd'hui le 2e anniversaire du massacre perpétré par les islamistes somaliens dans le centre commercial Westgate de Nairobi. Des bougies dans le bâtiment qui a rouvert en juillet. Le 21 septembre 2013, 4 Shabaab avaient pris d'assaut le centre commercial, lançant des grenades et tirant au fusil d'assaut sur les employés et les clients des nombreux magasins et restaurants. L'attaque avait fait 67 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grèce, Alexis Tsipras, à la fois ancien futur Premier ministre, il a remporté ce dimanche un audacieux pari électoral aux législatives anticipées. Une victoire qui suscite beaucoup d'espoir au sein de l'Union européenne. Mais la Grèce doit faire face à de nombreux défis, les précisions de Dili Dico.
L'ex-premier ministre grec réussit un tour de force en remportant ses deuxièmes législatives en 8 mois avec 35,46% des voix selon les résultats quasi définitifs. Il se débarrasse ainsi de la frange anti-austérité du parti de gauche Syriza. Fort de ce succès, il s'apprête à reconduire un gouvernement de coalition avec la droite souverainiste afin de faire face aux nombreux défis qui attendent la Grèce. La priorité du nouveau gouvernement ? Faire appliquer les mesures d'austérité et les réformes économiques attendues par les créanciers du pays, l'Union européenne et le FMI. La Commission européenne a salué la victoire du Premier ministre sortant. Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a indiqué qu'il est urgent de mettre en place le programme d'aide financier approuvé en août par les partenaires européens. Sur la question des afflux massifs de migrants en Grèce, M. Juncker a indiqué le besoin de rendre plus opérationnelle la gestion de la crise des réfugiés, qui fera l'objet du sommet des chefs d'État et de gouvernement mercredi à Bruxelles.
Le Parlement hongrois a adopté à une majorité écrasante une nouvelle législation renforçant encore les pouvoirs de la police et de l'armée à l'encontre des migrants. Le texte entérine la possibilité de déployer massivement des militaires aux frontières et autorise, dans certaines conditions, l'usage d'armes non létales telles que balles en caoutchouc, engins pyrotechniques, grenades lacrymogènes et fusils à filet. L'armée est également autorisée à procéder à des contrôles d'identité et à la garde à vue de migrants. Comme le rappelle l'AFP, la Hongrie a vu transiter 225 000 migrants depuis le début de l'année qui, dans leur très grande majorité, ont poursuivi leur route vers l'ouest de l'Europe.
Le secrétaire d'État américain promet que les États-Unis vont continuer à œuvrer pour la libération de tous les otages américains au Moyen-Orient et à travers le monde suite à la remise en liberté de deux Américains au Yémen. M. Kerry a remercié le gouvernement du sultanat d'Oman qui a négocié avec les rebelles chiites. Trois autres étrangers détenus au Yémen ont également été libérés. Leur identité n'a pas été révélée, mais une entreprise de la Nouvelle-Orléans engagée dans la livraison d'aide humanitaire affirme que l'un des cinq est son employé, Scott Darden. Concernant la crise au Yémen, Washington demande à toutes les parties de prendre part aux négociations sans précondition, disant que le peuple yéménite souhaite la fin de la guerre.
Les États-Unis pourraient s'abstenir d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU demandant la levée de l'embargo américain contre Cuba. Citant quatre responsables de l'administration Obama, sans les nommer, l'agence Associated Press indique que le vote dépendra du libellé de la résolution. Par le passé, les États-Unis se sont toujours opposés à pareille démarche, pourtant soutenue par la grande majorité des membres de l'Assemblée. Washington et la Havane ont récemment rétabli leurs relations diplomatiques, mais seul le Congrès a le pouvoir de lever l'embargo.
Le pape François poursuit sa visite pastorale à Cuba, où il est arrivé samedi. Troisième étape, la ville de Santiago de Cuba, le berceau de la révolution menée par Fidel Castro. Le 26 juillet 1953, Fidel et son frère Raoul avaient lancé l'attaque contre la forteresse militaire de la ville. Il s'agissait de la première action armée de la révolution cubaine. Le pape François doit y rencontrer mardi des familles dans la cathédrale avant de bénir la ville, qui avait beaucoup souffert du passage de l'ouragan Sandy en 2012. Il célébrera aussi une messe. Le pape quittera Santiago en milieu de journée, mardi, pour se rendre à Washington, première étape de son voyage aux États-Unis.
Retour sur ce double attentat suicide qui a fait au moins 5 morts dans l'extrême nord du Cameroun. Le bilan aurait été plus lourd sans l'intervention d'un élément des forces de l'ordre qui a intercepté les kamikazes, au péril même de sa vie, à l'entrée du marché de Mora. Écoutons le gouverneur de l'extrême nord, Mijiawa Bakari, sur ce qui s'est passé dans l'attentat d'hier. Il est au micro de notre reporter Moki Edwin Kinzeka.
Les kamikazes s'est précipité certainement pour aller se positionner dans les marchés pour pouvoir donc commettre leur forfait. Cet inspecteur a dû s'en apercevoir et il a pu les intercepter, mais il a dû payer de sa vie. Nous magnifions cet acte-là. Nous avons pour le moment enregistré 5 morts. Nous présentons au nom du couple présidentiel condoléances plus attestées. Je voudrais également féliciter les forces de défense et de sécurité, mais également les comités de vigilance. Ces kamikazes n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. À chaque fois, ils ont été stoppés net par les forces de défense, les comités de vigilance. N'eût été cette vigilance accrue, le bilan aurait pu être très très lourd. Aujourd'hui, cette nébuleuse est en perte de vitesse, elle est pratiquement en désarroi. Elle agit, disons, comme un pétard mouillé. Et ceci, c'est grâce à l'action conjuguée des forces des maintiens d'ordre, des forces de défense et de sécurité, mais également des comités de vigilance qui ont répondu à l'appel du chef de l'État qui a demandé à chacun, notamment au comité de vigilance, de cultiver la vigilance, notamment de dénoncer, d'informer à temps. Quoique cette leçon a été retenue, et depuis un certain temps, nous constatons sur le terrain des actes positifs. Je voudrais tout simplement demander aux uns aux autres de ne pas baisser la garde, de mettre le pied sur l'accélérateur pour enfin nous puissions en découdre avec cette nébuleuse qui bat de l'aile. Je voudrais que tout simplement que chacun puisse apporter sa contribution pour le coup de grâce qui sera asséné à la tête de cette nébuleuse agonisante. Nous allons tout droit vers les fêtes de Tabaski. Il est donc urgent que nous doublions encore de vigilance, que les mesures prises soient appliquées et tout doit être mis en œuvre pour les anéantir, les mettre hors d'état de nuire.
On écoutait le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Midjiawa Bakary.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Des centaines de milliers de demandeurs d'asile fuyant les guerres ou la misère essaient quotidiennement de rejoindre l'Europe. Pour beaucoup de migrants, l'Allemagne est la future terre promise. La chancelière Angela Merkel avait ouvert les portes, mais face à l'afflux massif, a dû revenir sur sa décision et instaurer un contrôle aux frontières. Pour une explication, Idriss Fall a joint M. Aziz Diop, un journaliste à la retraite à Cologne.
Angela Merkel est partie sur un instinct humanitaire, mais en même temps, il y a un petit rejet ou un problème qui n'est pas réglé, qui est le problème de financement des demandeurs d'asile qui vont être accueillis par les Länder, c'est-à-dire les États fédérés de l'Allemagne. Et Merkel, elle a plutôt demandé aux autres pays européens de respecter un peu l'engagement qu'ils ont eu à tous prendre, et que l'Allemagne ne se retrouve pas à accueillir 40% des demandeurs d'asile. Problème donc que les autres pays prennent leurs responsabilités, ce qui lui permet d'abord de faire face au rejet psychologique des Allemands eux-mêmes par rapport à ces réfugiés. Il faut le dire, hein, ce n'est pas encore accepté dans le cœur des gens. Et de l'autre côté aussi de régler le problème du financement avec les Länder, bien qu'il y ait eu la décision de Berlin de faire un apport de 1 milliard d'euros pour ces Länder afin qu'ils puissent faire face à cette nouvelle vague.
Munich qui est la porte d'entrée vers le sud, Munich est arrivé à saturation.
Déjà même sans réfugiés, Munich est souvent à saturation. Parce que c'est le land le plus conservateur de l'Allemagne. La Bavière a été surprise par ce nouvel élan, accueillir ces immigrés, qui sont surtout des immigrés venant de Syrie, d'Albanie, de Kosovo, de Serbes, etc. La Bavière étant aussi la porte d'entrée, évidemment, il fallait faire face. Mais ce n'est pas quelque chose d'acquis.
Et qu'en est-il du Nord, Berlin, qui a déjà vécu la réunification avec l'Allemagne de l'Est? Comment est-ce que les gens vivent ça?
Les gens sont récalcitrants. Déjà, le problème même de cette réunification avec l'Allemagne de l'Est, jusqu'à présent, les Allemands de l'Ouest, les Occidentaux, ont un préjugé et puis un regard assez accusateur vis-à-vis des aussi, c'est-à-dire les gens de l'Allemagne de l'Est, parce que ici, à l'Ouest, nous avons eu par nos impôts à financer pendant des décennies, justement, cette réunification.
Et que vous aurez à faire aussi pour accueillir 800 000 migrants.
Absolument. Écoutez, moi-même qui ne suis pas allemand, parfois j'ai eu à taper sur la table en me disant, écoute, ça suffit maintenant avec ces impôts.
Voilà, c'était Aziz Diop, un journaliste à la retraite à Cologne.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Bientôt la fin de cette édition. On remercie Michel Joseph qui a dirigé la mise en onde ce soir avec l'assistance de Justin Thwaite à la console. À la présentation, Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura. Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.